sur le premier rapport à notre ami Jean-Claude Giraud. Tu as la parole, Jean-Claude.
Les premières pages vous ont permis de prendre connaissance du contexte dans lequel les collectivités vont mener leurs actions en 2018. Ce qu'on peut en extraire principalement, hormis l'emblématique exonération de la taxe d'habitation, c'est que l'État projette de contraindre par contrat les collectivités à lutter contre les déficits publics de la nation, ceci en plafonnant la progression de leurs dépenses, mais aussi en encadrant leur endettement en instaurant un ratio prudentiel. Au final, l'objectif recherché est que le pays puisse respecter ses engagements auprès de l'Europe. Dans cette perspective, l'État accorderait dorénavant ses dotations en fonction d'une sorte de bonus-malus selon que les collectivités auront respecté ou non le contrat, particulièrement en ce qui concerne la progression des dépenses. Autrement dit, c'est la carotte ou le bâton pour les collectivités qui doivent payer l'addition du redressement des comptes de l'État alors que leur responsabilité n'est engagée que pour moins de 10% au regard des objectifs fixés par l'Europe. De fait, une partie des ressources des collectivités seront placées sous tutelle, ce que certaines interprètent dans le meilleur des cas comme une atteinte au principe de libre administration des collectivités, voire comme un processus menaçant la décentralisation. Quoi qu'il en soit, ce nouveau deal ne concernerait dans un premier temps que les grosses collectivités. Pour ce qui en est de notre aglo, seul Agen et l'aglo en tant que tel seraient directement concernés, mais uniquement par le ratio prudentiel d'endettement, donc sans que la progression de leurs dépenses soit muselée autoritairement. Venons-en à Boué. Le dernier séminaire, la finance, a permis notamment de mettre l'accent sur la capacité d'épargne, car c'est sur elle que repose toute notre politique financière, et en particulier celle des investissements. Partant de là, le séminaire a ouvert la voie au débat d'orientation budgétaire qui s'intéresse principalement aux tendances, à la trajectoire des chiffres, alors que le compte administratif constate leur point de chute. Alors pour donner le change, empruntons quelques informations pour amorcer le sujet. Voici la première affirmation. Les finances publiques doivent être saines. Qui pourrait être contre ? Voici la deuxième. Le budget doit être équilibré. Là encore, qui pourrait être contre? La troisième dit, la dette publique doit être réduite. Là aussi, qui pourrait être contre, à part les banquiers? La quatrième dit, l'arrogance de l'administration doit être combattue et contrôlée. Qui souhaiterait que la technocratie soit au pouvoir, à part les technocrates eux-mêmes? Vise-t-on la communauté européenne? On ne sait pas. La cinquième dit « L'aide aux pays étrangers doit être diminuée de peur que l'État ne tombe en faillite ». Parle-t-on ici de la politique d'immigration? Et une sixième pour finir « La population doit encore apprendre à travailler au lieu de vivre de l'aide publique ». Vise-t-on les chômeurs, les bénéficiaires du RSA? On peut comprendre que ces affirmations puissent trouver un écho tant elles sont dans l'air du temps. Certains pourraient même dire qu'on enfonce des portes ouvertes. Mais si c'est le cas, alors il faut préciser qu'elles ont été ouvertes par un républicain. Il y a de cela non pas 10 ans, ni 50, ni 100, ni 500, mais 2072 ans. Et qui était ce portier républicain, l'auteur de ces affirmations? Un certain Cicéron. Si l'histoire ne se répète pas, parfois le bégaye. La crise dure donc toujours, rien de nouveau sous le soleil, et comme dit l'autre, si une crise est permanente, alors ce n'est plus une crise. Cultivons donc le réalisme. Alors on va en venir maintenant au grand 2 de la page 4, qui concerne la situation financière de la commune. Alors en introduction, les objectifs financiers pour 2018 sont annoncés, à savoir qu'il faut continuer à mieux maîtriser nos dépenses et piloter finement nos recettes, ceci sans augmenter les taux de fiscalité ni emprunter. Voilà pour le cadre qui pourrait être un copier-coller de l'an passé. Ensuite, la situation économique de Boué est résumée dans un premier tableau. En substance, on constate dans ce tableau que nos recettes sont dans une tendance orientée à la baisse, à laquelle, bien sûr, la baisse de la DGF n'est pas étrangère. Cette baisse des recettes poserait problème si elle était accompagnée en parallèle d'une hausse des dépenses, ce qui n'est pas le cas, car plus bas, on constate la diminution des dépenses, surtout en 2016, où la baisse sort nettement de la tendance. 2017 devrait être peu ou prou dans la continuité. On verra ce qu'il en est au compte administratif. Dans cette configuration, nous dégageons en 2016 un taux d'épargne brute de 23%, très conséquent pour une commune comme la nôtre. Ce taux devrait toutefois fléchir en 2017, notamment à cause de la baisse de la DGF, mais aussi de la stagnation des autres recettes. On va donc passer au point suivant, qui est la DGF. Alors, on peut constater d'emblée que notre DGF a été divisé par 5 depuis 2013, ce qui représente une perte cumulée de plus de 415 000 euros, et donc autant d'épargne en moins sur la période. Après une baisse de 100 000 euros entre 2016 et 2017, le fait notable est qu'en 2018, la baisse de la DGF sera stoppée. Elle restera donc au niveau de 2017, ce qui devrait freiner la tendance baissière de nos recettes en 2018. Je rappelle que la DGF est historiquement faible à Boué. Par exemple, pour fixer les idées, en 2016, notre DGF représentait 47 euros par habitant, alors qu'à mon encontre, c'était 84. Toutefois, cette faiblesse de notre DGF dans le total de nos ressources permet de relativiser sa baisse, ce qui n'est pas le cas pour de nombreuses communes. Le point suivant concerne le poids de l'agglomération dans la structure de nos recettes au travers de l'attribution de compensation. Rappelons que lorsque l'aglo prend une compétence jusque-là exercée par les communes, elle en reprend aussi les charges, qu'elle défalquera ensuite de l'attribution de compensation qu'elle verse aux communes. Boué n'ayant pas transféré de compétences à l'aglo depuis plusieurs années, ceci explique que notre attribution de compensation soit restée stable. Il en sera de même en 2018. Toujours concernant l'aglo, le point suivant concerne le Fonds de solidarité territoriale, autrement dit le FST. Rappelons qu'il s'agit d'un concours financier de l'aglo qui vient soutenir les projets des communes dès lors que ceux-ci s'inscrivent dans 9 thématiques déterminées, avec un financement dont la quotité varie de 20 à 50% selon la nature du projet et dans la limite d'un droit de tirage annuel fixé pour chaque commune. Rappelons également que l'attribution du FST ne constitue pas une obligation pour l'aglo. Concrètement, cela signifie que l'aglo peut moduler le montant du FST à sa convenance, entre rien et quelque chose. Le FST n'est donc pas une ressource garantie, ce qui pénalise les communes comme la nôtre qui ont un niveau d'investissement élevé et qui, par conséquent, ont besoin d'une visibilité financière dans le temps. Sur la période 2013-2017, Boué a bénéficié d'un FST cumulé de 824 000 euros, ce qui témoigne d'une politique d'investissement vigoureuse, à tel point que nous sommes dans le rouge par rapport à notre droit de tirage. Il n'est donc pas certain que notre demande de FST pour 2018 soit intégralement honorée par l'aglo, surtout si les demandes des autres communes sont fortes. Le point suivant concerne l'endettement. Là aussi, en passant par quelques citations pour introduire le sujet. La première est bien connue. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Autrement dit, l'emprunt n'est ni plus ni moins que de l'impôt différé. La deuxième citation est semblable. Le crédit nous permet de construire le présent aux dépens du futur. Et puisqu'il n'y a pas de banquier ici, profitons-en pour donner la troisième, qui stipule qu'avec le crédit, on revient à une situation proprement féodale, celle du fraction du travail due d'avance au seigneur, au travail asservi. Venons-en au premier tableau. Ce tableau montre que, courant 2017, nous sommes passés sous le million d'euros d'endettement et que nous débutons 2018 avec un stock de dette de 863 000 euros qui s'annulerait en 2033. Comme cela a été souligné lors du dernier séminaire Finances, il s'agit d'un très faible endettement au regard de la taille de notre commune, ce qui par ailleurs relativise les frais financiers. En 2016, notre commune s'est acquittée de 37 000 euros d'intérêts. Si notre endettement avait été identique à celui de la strate, c'est 255 000 euros de plus que nous aurions dû verser. De fait, nous le retrouvons en épargne. Si notre endettement est faible, On le doit à une épargne brute conséquente qui nous permet de financer largement nos projets sans avoir besoin d'emprunter, malgré notre niveau d'investissement important. À la suite de ce premier tableau, on trouve la répartition des emprunts par type d'auto qui n'appelle pas de commentaires particuliers dans la mesure où cette répartition est semblable à celle que l'on avait constatée il y a un an. Le deuxième tableau donne la répartition par nature de dette. Par rapport à l'an passé, on note simplement la disparition du dernier emprunt BFT qui s'est éteint en 2017. Le troisième tableau de cette rubrique concerne la capacité de désendettement qui donne la mesure du niveau de solvabilité de la commune. Cette capacité de désendettement est exprimée par un ratio qui donne le nombre d'années nécessaires pour rembourser la totalité de la dette si on mobilise la totalité de l'épargne brute. On voit qu'en 2016, à Boé, il suffisait de moins de 8 mois d'épargne brute pour un désendettement total, ce qui est très inférieur au seuil critique de l'ordre de la dizaine d'années. Ce ratio est un indicateur de solvabilité permettant de cerner le risque de défaillance d'une collectivité. C'est ce ratio prudentiel que l'État souhaite désormais introduire dans le Code général des collectivités. Il devrait fixer pour chaque type de collectivité un nombre d'années à ne pas dépasser pour rembourser la totalité de la dette. Rappelons que dans notre agglo, seule l'agglo en tant que telle et la ville d'Agen seraient concernées, et possiblement le passage à Agen si le cap des 10 000 habitants était atteint. Pour ces collectivités, le seuil critique irait de 11 à 13 ans. Avec nos 8 mois, nous avons de la marge. Pour finir, on constate par ailleurs dans ce tableau la chute logique de l'encours de dette par habitant, qui fait écho au désendettement global. En revanche, le ratio de la strate reste élevé et son évolution à la baisse, probablement freinée par de nouveaux emprunts. On peut passer maintenant au grand 3, en commençant par les orientations fiscales. Alors, pour se mettre en condition, on commencera là aussi par un proverbe de financier qui affirme que l'avenir appartient à ceux qui lèvent tôt. On répondra que cela fait plusieurs années qu'à Boé on fait mentir ce proverbe, car nos taux n'augmenteront pas en 2018. Donc, après avoir dit que nos taux d'imposition n'augmenteraient pas et que notre politique d'abattement resterait la même, la nouveauté concerne la suppression étalée jusqu'en 2020 de la taxe d'habitation pour les contribuables ne dépassant pas un certain plafond de revenus. Cette réforme qui débute en 2018 concernerait 80% des contribuables. Alors, qu'en est-il à Boé ? Concrètement, en 2017, il y avait 333 foyers boétiens qui étaient exonérés sur les 2368, ce qui représente 14%. Avec la réforme, c'est finalement un total de 1896 foyers boétiens qui seraient potentiellement exonérés. Alors, la réforme prévoit que la perte du produit fiscal pour la commune sera compensée in fine par l'État. Au terme de l'étalement de la suppression en 2020, le montant de cette compensation sera verrouillé définitivement par l'État au niveau du produit de TH que percevait la commune en 2017. Donc, c'est une ressource qui, pour nous, dans l'avenir, sera bloqué. Dès lors, en régime de croisière, passé le cap des 3 ans, il en résulte qu'un contribuable entrant dans le champ de l'exonération sera donc exonéré à la hauteur de la TH qu'il payait en 2017. Il en découle que si sa commune vote par la suite une augmentation du taux de TH, ce contribuable devra s'acquitter du différentiel. Idem si les abattements sont remis en cause, si les bases d'imposition sont revalorisées. Pour le dire simplement, un contribuable exonéré disposerait à terme d'une sorte de franchise d'impôt équivalente au montant de la TH qu'il payait en 2017. Cette franchise serait ensuite déduite du nouveau montant de sa TH si celui-ci venait à augmenter. Autrement dit, ce contribuable devra s'acquitter de la différence entre la nouvelle TH et sa TH de 2017 qui servira de référence, et ceci tant qu'il restera dans le champ de l'exonération. Alors, par rapport à ce sujet, quelles sont les craintes des communes ? Outre le fait que l'État a déjà démontré par ailleurs sa versatilité en matière de compensation, les communes qui verront leur population croître, comme Boé notamment avec le projet Maro, devront investir en conséquence alors qu'elles ne verront pas en parallèle augmenter la compensation de l'État si les revenus des nouveaux habitants les exonèrent d'ETH. Pour la commune, tout nouveau foyer présentera donc un risque de manque à gagner en produit fiscal. Partant de là, si on extrapole, la question est donc de savoir si les communes ne chercheront pas à faire de l'optimisation fiscale en mettant en place une politique favorisant des projets susceptibles d'attirer des nouveaux habitants dont le revenu est suffisamment élevé pour les exclure du champ de l'exonération. Dans ce cas, le profil sociologique de la commune pourrait s'en trouver modifié. Et quid des logements sociaux ? Fiscalité toujours. Chaque année, les valeurs locatives qui servent de base au calcul des impôts locaux font l'objet d'une revalorisation. Pour 2018, nous projetons une revalorisation de 1% compte tenu du taux d'inflation constaté en 2017. Si d'autre part nous faisons l'hypothèse que les nouveaux projets d'urbanisation entraîneraient une variation physique des bases de 1% pour l'ATH, 2% pour le foncier bâti et une baisse de 1% pour le non bâti, le produit fiscal prévisionnel qui en résulterait en tenant compte de la réforme de l'ATH est détaillé dans le tableau de synthèse qui suit. Au final, ce produit fiscal ne diminuerait que de 4,48%, la casse étant limitée grâce à l'augmentation du produit des taxes foncières qui compenserait en partie la diminution du produit de l'ATH. On constate ici l'impact de la réforme de l'ATH sur la structure de nos produits. Alors, quittons la fiscalité et passons à l'évolution des charges. Pour les charges à caractère général, l'objectif pour 2018 est de maintenir les crédits. Il faut rappeler toutefois qu'une partie de ces charges est liée à notre politique d'investissement. Si celle-ci est dynamique, comme c'est le cas à Boé, alors fatalement, les charges à caractère général suivront le mouvement. On ne peut pas à la fois vouloir investir et refuser les charges de fonctionnement qui en découlent. Pour ces charges, il est donc difficile d'avoir une courbe d'évolution lissée. Avec la forte baisse qui fait sortir 2016 de la tendance, 2017 devrait y revenir. On verra ce qu'il en est précisément au compte administratif. Ensuite, pour les charges de personnel, qui représentent la plus grosse dépense de fonctionnement, on constate que le ratio par habitant est globalement resté stable depuis 2014. C'est une tendance lourde à laquelle 2018 ne devra pas déroger, sauf à la baisse, bien sûr. Passons à l'investissement. Pour mémoire, on retrouve ici l'historique des dépenses d'équipement depuis 2014. Quelle que soit l'année considérée, il s'agit d'un niveau d'investissement élevé pour une commune comme la nôtre. Pour 2018, les projets inscrits au PPI s'élèvent à 2 924 300 euros, ce qui là encore est très conséquent. Pour mémoire, on retrouve les principaux dans la liste qui suit et que vous avez déjà dû consulter. Alors, la question du financement ensuite. Certains projets... Certains projets ont fait l'objet d'une demande de subvention. Au total, la commune sollicite un montant de 342 700 euros. Pour autant, il n'est pas dit que cette demande sera honorée en totalité. Je rappelle notamment l'incertitude qui pèse sur l'attribution du FST au regard de notre situation dans les comptes de l'agglo. Ces subventions seront complétées par d'autres ressources d'investissement courantes, telles que l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, le FCTVA et la taxe d'aménagement notamment. L'emprunt étant exclu, le bouclage du financement des projets fera appel, si nécessaire, à un prélèvement sur le fonds de roulement. Comme l'an passé, le financement des projets sera donc réalisé selon le schéma qui suit. Donc, on retrouve l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement, épargne brute à répartir. Sur la partie gauche, on voit qu'il y a l'affectation prioritaire qui va vers le désendettement. Et sur la partie droite, ce qui reste de cette épargne brute constitue l'épargne nette, qui va donc constituer l'autofinancement des investissements. Et en complément de cet autofinancement, dessous, on voit les autres recettes d'investissement courantes que l'on a évoquées. Et si, ma foi, il y avait en bas des ressources manquantes pour faire face au projet 2018, eh bien, on prélèverait la différence, le restant, le solde, sur le fonds de roulement. Voilà, monsieur le maire, les éléments qu'on peut apporter pour que le débat puisse s'instaurer.
Merci, merci Jean-Claude pour ce rapport particulièrement complet et qui est de nature, par conséquent, à nous permettre de débattre, puisque je vous rappelle que nous en sommes au débat d'orientation budgétaire. Donc là, on n'est pas sur la finalisation définitive d'un budget, mais nous sommes en train de prendre la mesure des contraintes et de l'environnement permettant d'établir un budget équilibré. En tout cas, nous avons les grandes caractéristiques de notre situation budgétaire, avec également l'indication plus précise des investissements qui résultent du travail effectué en commission et des différentes orientations que nous prenons en la matière pour les investissements à mener. Voilà, je vous donne la parole, chers collègues, qui souhaitent intervenir. Monsieur Roux.
Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Je voulais juste poser une question à monsieur Géraud, faire une observation. L'observation sera simple, elle est toujours la même chaque année, c'est qu'il est regrettable que nous n'ayons pas les chiffres définitifs de l'année écoulée. Par exemple, en charge personnelle ou charge générale, on s'arrête en 2016, on est en 2018. Par habitant, dans la courbe, attendez, excusez-moi, je me trompe peut-être. En tout cas, charges à caractère général n'y sont pas. Hein, voilà, ce qui est un peu dommage. Justement, concernant ces charges à caractère général, monsieur Géraud, vous nous avez expliqué qu'il y aurait sans doute une augmentation en 2017 et vous l'avez justifié par l'investissement qui avait été fait par la commune. Mais voilà, j'aurais simplement souhaité que vous développiez ce point, s'il vous plaît.
Le micro, Jean-Claude.
On aura peut-être l'occasion, au moment du compte administratif, d'avoir davantage de détails. Et notamment, c'est le projet Maison de Garonne qui vient impacter le 011. Hein, ça, c'est clair. On pourra le mesurer, d'ailleurs, au compte administratif pour l'année 2017, déjà. Hein. Voilà.
Je sais pas si... Donc, en résumé, pour répondre à M. Roux, donc sur les dépenses de personnel, oui, elles y sont... Concernant le chapitre 012, puisque là, c'est acté, quoi. Hein, voilà, les dépenses, on sait... Sur le 011, il y a encore toute la période, vous savez, de rattachement des charges à l'exercice, c'est-à-dire qu'il y a des factures qui peuvent être honorées courant janvier et qu'on devra budgétairement rattacher à l'exercice 2017, donc on ne peut pas complètement finaliser. On a sans doute aujourd'hui la tendance, mais...
Ouais. Non, je peux revenir là sur le 011. Oui. Alors effectivement, si on regarde le 011 en 2016, on voit bien qu'il a une évolution atypique. Hein. Il y a une chute brutale. Hein, c'est hors tendance. Hein. Donc, ça veut dire que cette année-là, il y a eu des particularités qui expliquent cette baisse. Mais ces particularités, on ne va pas les retrouver sur la tendance générale qui nous attend. Donc, il faut s'attendre logiquement à ce que le 011 retrouve la tendance. C'est un peu ce que j'ai dit dans mon propos. Il va se réinscrire dans la tendance. Hein.
Voilà. Voilà, ça veut dire que nous devrions avoir en charge à caractère général sur 2017 une remontée par rapport à 2016.
Ah oui.
Voilà. Oui, il y avait eu une chute.
Oui. On verra qu'il y a eu de nouvelles dépenses auxquelles on n'était pas confronté jusqu'à présent et qu'il faut bien affronter. Voilà. Mm. Et puis bon, le projet Maison de Garonne, hein, comme on l'a dit. Hein, donc, on verra ça.
Je voudrais revenir, si vous permettez. Je pense qu'il y a un tableau qui est intéressant, un tableau général. Hein. Après, bien sûr qu'on peut analyser plus finement les choses dans le détail. Mais je voudrais revenir, c'est la page 5, je crois, du rapport qui nous a été donné. C'est assez intéressant. Quand on voit, ça s'appelle « Situation économique de la ville de Boué, recettes, dépenses réelles de fonctionnement et épargne brute ». Donc ce rapport, il est à la page 5, je crois. Si vous prenez le dernier compte administratif connu, c'est-à-dire celui de 2016, mais vous pouvez le voir aussi sur ceux qui précèdent, à la fois la comparaison, attention, hein, les comparaisons, moi j'incite toujours à beaucoup de prudence là-dessus, parce que par exemple, s'agissant des dépenses de fonctionnement, vous prenez, vous voyez, tout à l'heure, nous avons reçu les deux cantinières, les deux agents chargés de la cuisine au restaurant scolaire. Je vous disais que nous étions très attachés à cette cuisine en régie, c'est-à-dire que nous faisons en régie. Bon, mais ça veut dire là que nous avons des dépenses, bien sûr les dépenses de nourriture, mais les dépenses de personnel pour faire fonctionner cette... Voilà. Quand on est en délégation, si on fait le choix d'une délégation de services publics, bien sûr qu'on va sans doute payer une petite contribution, mais l'essentiel, c'est quand même là, ce que payent les parents. Bref, on n'a pas les mêmes dépenses. Donc, on peut bien sûr comparer, mais vous voyez, il y a des situations qui ne sont pas les mêmes. Là, moi, je vous parle du restaurant scolaire, mais il peut y avoir des situations différentes sur le service voirie, selon le degré d'intégration à l'intérieur de la communauté d'agglomération. Donc, chaque fois, il faut les analyser, ces comparaisons. Hein, mais elles ont quand même un sens, bien entendu. Mais il faut les nuancer par rapport aux particularités de situation et de fonctionnement. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, justement, là, dans les grandes lignes, si nous prenons les recettes réelles de fonctionnement par habitant, nous voyons que par habitant, tel que ça résulte du compte administratif 2016, nous avons 1 217 euros par habitant, alors que le ratio de la strate, c'est 1164. Ça veut dire que, je dis ça, bon, nous avons des recettes supérieures à celles de la strate, mais quand on parle de Boé, très souvent, vous parlez de Boé, hein, Boé, commune riche, voire très riche, nanana, etc. Moi, je sais, parce que j'ai des éléments de comparaison avec d'autres communes, y compris dans l'agglo ou ailleurs, que si vous faites un sondage, vous allez demander, tous les gens vont vous dire, la commune riche de l'agglo et tout ça, c'est Boé. Je peux vous dire qu'il y a des communes, c'est pas vrai, vous avez des communes comme Estillac, etc., si vous ramenez par habitant, qui sont beaucoup plus riches que Boé, quoi, hein. Mais ça tient aux fonciers des entreprises, bon, bref, l'agropole, etc., le passage, c'est pareil et tout. Donc, il faut relativiser, et j'en vois la confirmation ici. C'est-à-dire que vous voyez que nous avons des recettes par habitant supérieures à la strate, mais légèrement supérieures. Vous avez moins de 5%, vous avez 3%, quoi. Vous avez 50 euros de différence à peu près, hein, sauf erreur de ma part. C'est pas énorme, quoi, hein, par rapport à la strate. Donc, oui, on a des recettes confortable, sans plus, quoi. On est au-dessus de la moyenne de la strate, hein. C'est, voilà, et pas de façon considérable. Vous prenez ensuite les dépenses réelles de fonctionnement par habitant. Et encore une fois, en relativisant, hein, ça, hein, il faudrait regarder après dans le détail quels sont les services que nous assurons en direct, etc., etc. Mais nous avons, et je le dis parce que c'est un débat entre nous, souvent, hein, quand on dit... Et ça, je l'entends, et nous y appliquons. Quand on dit qu'il faut maîtriser les dépenses, être rigoureux, ne pas, opiner du chef, et vous avez raison. Non, mais c'est vrai, je l'entends. Mais voilà, on est à dépenses réelles de fonctionnement par habitant, 930 euros. Okay, vous voyez que la strate, c'est 70 de plus, quoi, c'est 1033. Donc le différentiel, là, il montre que... qu'on n'est pas laxiste, loin de là, puisqu'en moyenne, et avec toutes les précautions relatives aux spécificités des communes, on est quand même sur des dépenses par habitant en fonctionnement inférieures à la moyenne de la strate. Voilà. Donc ça me va assez, quoi. Et ça rejoint, pardon, j'ai fait le lien avec les dépenses à caractère général, puisque vous savez bien que le chapitre 011, comme le chapitre 012 pour le personnel, c'est principalement là que se situe la rigueur ou les dérives, quoi. Hein, voilà. Je vous redonne la parole, chers collègues. Qu'est-ce que... Bon, alors, c'est vrai qu'on avait pu échanger pendant le séminaire là-dessus. Henri Jacquin.
Oui. Peut-être l'avez-vous déjà abordé en bureau municipal, mais... Qu'est-ce qu'il en est de la future nouvelle taxe d'habitation pour les PPRI ?
Alors, c'est pas une taxe d'habitation.
Pardon,
mais...
non, une.
J'ai ma fille. Voilà,
moi, une taxe, j'allais un peu loin. Une taxe, ouais, une taxe.
Ouais. Oui, une taxe. Ouais, j'ai ma fille. Alors, ben, écoute, à vrai dire, on l'a évoqué en bureau d'agglomération, puisqu'en effet, ce serait à ce niveau, oui, oui, hein, que ce serait instauré. On l'a évoqué de très loin parce qu'il n'y avait pas de précision là-dessus, mais comme toi et comme vous, j'entends à la radio effectivement que les choses se précisent un peu. C'est la taxe qu'on appelle parfois GEMAPI, hein, c'est la gestion des inondations et de, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, des milieux aquatiques, etc. Oui, j'entends ça. Donc il y aurait une taxe, mais si j'ai bien compris, à la discrétion des collectivités, de l'instaurer ou de ne pas l'instaurer. J'entendais à la radio aujourd'hui que ça pourrait aller jusqu'à 40 euros quand même par habitant. qu'il y avait des discussions, un doute pour savoir si c'était rattaché au foncier seulement, auquel cas seuls les propriétaires seraient concernés, ou à la taxe d'habitation, mais compte tenu du devenir de la taxe d'habitation, ça pose question. Bref, il y a beaucoup de flou là-dessus, mais oui, il y a cette taxe, et je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, parce que je ne sais pas plus, quoi. Vas-y, Henri.
Oui, mais quand tu dis qu'il n'y aura pas forcément de répercussions, chacun fera un peu ce qu'il voudra. Moi, ce n'est pas ce que j'ai compris. Savoir que si les habitants qui sont en droit de payer cette taxe ne le font pas parce que la municipalité l'a décidé, ça sera pris sur le budget de la municipalité.
Alors, pour ce qui nous concerne, on est bien d'accord, hein, cette taxe, si elle est instaurée, elle le sera par l'agglo et pas par la commune, hein. C'est la compétence inondation, gestion des milieux aquatiques, c'est l'agglo. Pour le contribuable, c'est pareil, quoi, hein, voilà. Donc, il y aura discussion là-dessus. Ce sera fonction. Alors, aujourd'hui, on dit l'État intervient et demain n'interviendra plus pour la protection contre les inondations, les digues, tout ça. Bon. Je voudrais qu'on me dise exactement, oui, je sais que l'État intervient quand il y a des grands ouvrages, etc., mais les collectivités interviennent. Ici, par exemple, les ouvrages de protection contre les crues qui se sont faits, c'est l'agglo qui les a portés. Voilà. Et à ma connaissance, avec des soutiens de la région, du département, et de l'État aussi, mais principalement, c'était l'agglo. Après, dans la situation où est l'agglomération aujourd'hui, c'est plus seulement la Garonne, quoi. Il y a la Garonne, mais il y a... le ministre et autres, tous les ruisseaux qui sont en rive gauche et autres. Et voilà, ça interpelle, quoi. Hein, ça interpelle. Mais je ne sais pas plus pour l'instant, quoi. Je sais pas plus. On aura des débats, hein, là-dessus. Hein. On aura des débats. Et c'est vrai que c'est une taxe, hein, une taxe supplémentaire, quoi. Si elle est...
Oui, ça comprend l'inondation, le coup de vent, on l'a déjà dans nos contrats d'assurance.
Oui, mais ça, c'est le particulier. Tu le paies, mais ça n'a pas à voir avec... Le risque, il y est, oui, c'est sûr.
C'est pour financer les ouvrages, les politiques de protection.
Oui,
c'est une question. En effet, il faudra que là-dessus... voilà, parce que pour le contribuable, c'est... Autre question, les amis ? Madame Enfanti ?
Oui, au niveau de la gestion des ressources humaines, on n'a pas abordé le sujet. Savoir s'il allait y avoir des recrutements envisagés, des suppressions de postes, ou est-ce qu'il y a des départs à la retraite ?
Voilà, alors, là-dessus, on aurait pu, en effet, donner au niveau, on le donnera au niveau du budget, hein, ça y est, la situation des personnels. Ce que je peux vous dire, c'est que il y avait eu l'an dernier, je sais, une baisse de deux agents, je crois, je ne me rappelle plus, Françoise. Je crois, et je parle sous le contrôle à la fois de Bruno Martin et de Muriel Grégoire, il me semble que cette année, en tout cas j'ai donné des chiffres samedi soir et qui sont strictement identiques à ce que nous avions l'an dernier, c'est-à-dire que la commune compte 103 agents au total. Je peux vous donner le détail, si vous le souhaitez, mais 103 agents et 27 d'entre eux relèvent du CCAS, c'est-à-dire les personnels de la halte-garderie, de la crèche municipale. Vous voyez, là aussi, quand on parlait des spécificités tout à l'heure, c'est une spécificité de Boué. Nous avons 13 agents d'une crèche municipale, familiale, mais municipale. Vous avez... La très grande majorité des autres communes, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas des crèches avec du personnel municipal, c'est des associatifs. Alors certes, il y a des subventions de la mairie, mais il n'y a pas le personnel. Donc en tout cas, ce que je vous donne, alors c'est très, très grossier, là, mais c'est 103 agents, je ne dis pas de bêtises, hein, Muriel et Bruno, 103 agents, dont 27 relèvent du CCAS, c'est-à-dire le pôle petite enfance, le CCAS lui-même, la MARPA, voilà, les 27 agents sont là, vous en avez 13 à la crèche municipale, vous en avez 4 ou 5 à l'accueil, un agent au RAM, deux, voilà, quoi. Et je, s'agissant de la gestion des personnels, je veux être précis. Bien sûr, au moment du budget, on apportera toutes les précisions. Hein. Il y a l'état du personnel et tout. Alors, comme je sais que parfois, on a eu des divergences d'analyse là-dessus, je vais être précis concernant le personnel. Vous avez, moi, je vous parle des emplois de la mairie. Hein. Donc, vous avez 103 agents. Bien. Nous avons des contractuels. Ces contractuels, ils sont recrutés pour pallier l'absence de titulaires de ces emplois permanents. Donc il ne faut pas les ajouter, quoi. Quand vous avez Madame X ou Monsieur Y qui sont absents parce qu'ils sont, et nous en avons 4, 5, 6, Françoise, congés longue durée, congés longue maladie, et depuis des années, pour certains d'entre eux, ces personnels occupent toujours statutairement le poste, ils ne sont pas présents, et ils sont remplacés par un contractuel, qui reste contractuel d'ailleurs, le temps nécessaire. Voilà, mais on ne peut pas les ajouter, je veux dire. Quand il y a le contractuel, il n'y a pas le titulaire en fonction. Hein, donc c'est une personne, ce n'est pas deux. Quoi. Voilà. Donc moi, je vous donne les postes, là. Voilà. Il n'y a pas de contractuel. Je dis ça parce que je fais une petite parenthèse. Voilà. De quoi ? De ?
Il n'y a plus de contractuels.
Comment il n'y a plus de contractuels ?
Mais qui occupe des emplois permanents.
Ah oui, non, il n'y a plus. Mais non, nous n'avons pas. Nous n'avons pas de contractuels qui se surajoutent. Je dis ça parce que je ne m'immisce pas dans les problèmes de l'agglo ou de la ville d'Agen là-dessus. Mais vendredi soir, il y avait la réception des vœux, dans la réception du personnel et puis des délégués communautaires. Là, mais c'était essentiellement la réception des personnels de l'administration commune, ville d'Agen et agglomération d'Agen. Et le président de l'agglo a parlé des contractuels avec le souhait qu'il a de faire évoluer à la hausse le nombre de contractuels. Il dit aujourd'hui, donc dans l'administration commune, il y a, j'ai retenu ça, 18% de contractuels et donc 82% d'emplois permanents. Et il dit, mais ça peut s'entendre, hein, il dit, voilà, moi je souhaite, c'est un des objectifs que je fixe, qu'il y ait plus de contractuels parce que ça veut dire plus de souplesse, de fluidité, etc. Bon, mais je me suis tourné vers Françoise, vers d'autres, pour dire, mais est-ce que c'est possible, quoi ? Parce que moi je suis resté... Je suis resté sur les textes de la fonction publique territoriale qui n'autorise, à mon sens, mais à vérifier, qui n'autorise la présence de contractuels que pour remplacer justement des titulaires absents, souvent sur des périodes un peu longues, ou c'est vrai, c'est prévu, et c'est là sans doute que le président de l'agglo et maire d'Agen entend jouer, ou pour des tâches, disons, temporaires, quoi. Des missions particulières de courte durée, là on prend contractuel, mais normalement ça c'est sous le contrôle de l'égalité, quoi, de la préfecture. Un emploi permanent, si vous voulez, vous ne pouvez pas... Enfin, recruter quelqu'un que vous allez garder pendant 3 ou 4 ans, qui ne remplace pas un titulaire, quoi, mais que vous avez recruté pour faire marcher quelque chose, normalement ça c'est... Enfin, voilà, c'est sujet à caution. Je le dis parce que finalement, il y aura débat. Et puis, on en parlera avec le maire d'Agen là-dessus. Voilà. En tout cas, nous, je confirme, et je parle sous le contrôle de Françoise et de la direction générale, nous n'avons des contractuels aujourd'hui que pour pallier l'absence de titulaires qui ne sont pas présents. Voilà. Donc, ça ne s'ajoute pas. Quoi, hein, voilà. Jean-Claude ?
Juste pour rajouter que sur un plan strictement financier, quand un contractuel remplace un titulaire qui est en congé de longue durée, l'assurance nous rembourse le salaire du titulaire. Donc financièrement, c'est...
Oui, sur 2018, bon, il y aura des départs à la retraite. Hein, on fera le point de toute façon... bientôt, et comme d'habitude, à chaque fois, on se posera la question si on les remplace ou pas. Je pense qu'il y a certains agents, il faudra les remplacer, on ne pourra pas faire autrement, vu les missions qu'ils ont. Et après, peut-être que pour d'autres agents, on pourra réorganiser le service pour permettre, pour éviter une nouvelle embauche. Voilà. Comment ? Pardon ? Ah non, je pense que Nous avons déjà réorganisé l'administration générale. Hein. Sylvette Lafond n'a pas été remplacée. Hein. Nous avons réorganisé sur le service technique. Il y a des agents qui n'ont pas été remplacés. Voilà. Sur le service jeunesse aussi. Et oui.
Oui, ça fait trois postes. Hein.
Ça fait trois postes. Tu as la parole, Henri.
C'était sur le ton de la plaisanterie, oui. Mais pour pouvoir appréhender au mieux ce que tu viens de dire, est-ce que dans les semaines à venir, voire dans les mois, pour ne pas perturber le bon travail des services, plutôt que des années, puisque ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a demandé à avoir une grille de lecture suffisamment explicite avec le positionnement des agents par catégorie et par métier, compte tenu de leur âge, pour savoir un petit peu où on va. Et ça fait 2 ans et demi qu'on attend.
Vas-y, Françoise.
Par catégorie, je ne vois pas ce que ça va t'apporter d'autre, hein, que le fait. Après, les départs à la retraite, vu tous les changements qu'il y a au niveau des retraites, je pense à un agent. Ça fait presque 2 ans que cet agent dit que le départ à la retraite va se faire, et puis il va se faire, oui, mais là, en fin d'année 2018, voilà, c'est difficile aussi de dire à un agent, de dire cet agent va partir, on ne le sait pas. C'est 6 mois avant qu'il. 6 mois avant le départ à la retraite.
Donc, Françoise, oui.
Voilà, après, c'est vrai qu'on a. On sait, oui, il y a des agents qui vieillissent, ça c'est sûr. Hein, voilà.
Ça doit quand même pas être très compliqué de nous fournir ces éléments-là.
Non, mais on va, en effet. Bon, effectivement, je crois que Françoise a raison de rappeler que la gestion prévisionnelle des emplois, c'est quelque chose de compliqué, notamment pour le départ à la retraite, parce qu'on ne peut pas simplement dire voilà, la personne a 62 ans, 63, elle va partir, etc. Et alors qu'elle peut rester plus longtemps et que l'expérience montre, comme le dit Françoise, que des agents qui avaient envisagé de partir pour des raisons personnelles, et de revenus, etc., ne partent pas et ça complique. Mais ce que l'on peut faire, si ce n'est déjà fait, ça donne une indication, encore une fois, qu'il faut relativiser. Il nous faut avoir la pyramide des âges, ou l'équivalent, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des agents. Voilà, il faut voir un petit peu, c'est intéressant. D'avoir, comment dire, la silhouette, on va dire. La silhouette de tout ça, ça donne une indication. Donc, Muriel et Françoise, il faudra demander à Mélanie de nous faire ça. Ça, on a tous les éléments pour ça. Mais encore une fois, ça ne dit pas que... voilà. Mais ça peut indiquer qu'à telle période, il y aura, logiquement, voilà, des départs relativement importants. On l'a ou pas, ça ?
Déjà, pour tout ce qui est catégorie et grade, c'est une annexe de budget. Donc, vous l'avez déjà.
D'accord, non mais on peut faire une...
Mais ça ne suffit pas, ça.
Je ne sais pas comment on appelle ça.
La pyramide des âges, vous l'avez avec le bilan social. Oui.
Bon. C'est pas pour systématiquement tirer sur le pianiste. C'est simplement, ça nous permettrait aussi de poser des questions.
Oui, non mais il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. D'abord, c'est public, c'est dans les documents.
Dans le bilan social, il y a tout ça.
Oui, mais je veux dire, on peut préparer, même si ce n'est pas... Dans le bilan social, s'il faut faire une analyse pour l'avoir, on peut, en commission d'administration, il faut produire des choses qui parlent, quoi, voilà. Et on peut les reprendre ensuite en conseil municipal. Moi, je ne vois pas d'objection à ça. Alors, tu as raison de poser la question. Quand je dis 103 agents, c'est 103 agents physiques. Et il faudrait le nuancer, je suis incapable de te le dire là, un équivalent temps plein, ce que ça fait.
C'est aussi un budget, ça.
C'est aussi, voilà. Mais bon, on les donnera. L'adjointe au personnel aura ça au moment du budget et on pourra le ressortir. Voilà. À la fois l'âge et le. Vas-y.
Hein ? Il y a une embauche qu'il ne faudra pas manquer, surtout un remplacement, c'est l'ingénieur. Quoi. À un moment donné, il ne faut pas se tromper là-dessus, parce que là, on ne va pas mégoter sur l'ingénieur, parce que là, on ne s'en sort pas. Quoi. Voilà, donc merci de...
Bien sûr. Non, mais sur l'histoire de la réduction des effectifs, encore une fois, on n'est pas nous, et puis, les amis, il faut poser... la question du service public, quoi. Moi, je veux dire, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif que de dire qu'il faut tous les ans restreindre les effectifs. On a des services publics à assurer, il faut les assurer, quoi. Il faut le personnel. Moi, j'ai en tête trois agents qui, ces dernières années, en effet, n'ont pas été remplacés ou l'ont été, très, très, très partiellement. Par exemple, on parlait de Sylvette Lafont, qui était ma secrétaire quand elle était partie, Il y a eu un redéploiement du service. Ça nous a permis de... D'abord, pourquoi ? Parce que là, on est sur le pôle administratif, que l'on a constaté que beaucoup de tâches sont désormais dématérialisées, que globalement, même si la dématérialisation, ce n'est pas rien non plus de mettre en œuvre, il y a assez, tout ça, mais ça permet en effet de disposer de puissance de travail un peu disponible. Donc tout ça a été redéployé, et bien sur les 35 heures de Sylvette Lafont, je ne sais plus, quoi, il y en a 21 qui n'ont pas été remplacés. Mais en revanche, on a complété le service d'une personne qui était à temps partiel. On redéploie, quoi. Hein.
Oui, mais...
Et surtout pour s'ajuster aux besoins, quoi.
Ça ne nous a pas échappé, d'ailleurs. On l'a voté en conseil municipal. Hein. C'est apparu au conseil municipal, on ne l'a pas.
OK, les amis. D'autres questions, peut-être, sur le DOM et les finances, d'une façon générale ? Pas d'autres interventions, Jean-Claude ? Tu as... Non ? Bien, pas d'autres citations. Alors, eh bien, je vais vous demander, je reprends la formule très, très précise, puisque on ne se prononce pas pour ou contre le débat ou les orientations telles qu'elles sont présentées. On vous demande d'acter que le rapport des orientations budgétaires, des engagements pluriannuels ainsi que de la structure et de la gestion de la dette a été présenté et débattu en conseil municipal. Point. Voilà, hein, c'est toujours la formule. Voilà. Donc, qui est favorable à reconnaître et acter que ce débat a eu lieu et qu'il a été présenté ? Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Donc, c'est acté à l'unanimité. Je vous en remercie.